Mais la joie de Gucho était contagieuse, et Marie s'en alla rassurée. Elle avait repris confiance simplement parce que Gucho partageait son secret.
« vous verrez la belle vie que nous allons avoir !» lui dit-il en la reconduisant à la porte du jardin.
C'est un grand acte de sagesse à la fois et de pitié de la part du Créateur que de nous avoir interdit la connaissance de l'avenir, alors qu'il nous a octroyé les délices du souvenir et les prestiges de l'espérance. À beaucoup de gens, la découverte de ce qui les attend ôterait sans doute leur persévérance à vivre. Qu'auraient fait ces deux époux, ces deux amants, s'ils avaient su ce matin-là qu'ils ne se reverraient plus de leur existence entière? Marie chanta tout le long du chemin de retour, entre les prés semés de boutons d'or et les arbres fleuris. Elle voulut s'arrêter au bord de la Mauldre pour y cueillir des iris.
« C'est pour orner notre chapelle, » dit-elle.
« Madame, hâtez-vous, » lui répondit la servante, « vous aurez des remontrances. »
Marie rentra au manoir, monta droit à sa chambre, et arrivée là, sentit le sol fuir sous ses pieds. Dame Eliabelle se tenait au milieu de la pièce et mesurait un surcot décousu au niveau de la taille. Marie vit toute sa garde-robe, peu fournie, et dont elle avait élargi chaque pièce de la même manière, étalée sur le lit.
« D'où viens-tu pour être si tardive ?» demanda Dame Eliabelle froidement.
Marie ne dit pas un mot, elle laissa choir les iris qu'elle avait encore à la main.
« Je n'ai pas besoin que tu parles pour le savoir, » reprit Dame Eliabelle. « Déshabille-toi. »«
Ma mère !» fit Marie d'une voix étranglée.
« Dévête-toi, je te le commande !»«
Jamais !»
répliqua Marie. Une gifle sonore répondit à son refus.
« Et maintenant, vas-tu te soumettre? Vas-tu avouer ton péché ?»«
Je n'ai point péché, » répondit Marie avec violence.
« Et ce nouvel embonpoint, où l'as-tu pris ?»
cria Dame Eliabelle en montrant les vêtements. Sa colère croissait d'avoir en face d'elle non plus une enfant docile à la volonté maternelle, mais soudainement une femme qui lui tenait tête.
« Eh bien oui! Oui, je vais être mère! Eh bien oui, c'est Gucho !» disait Marie. « Et je n'ai pas à en rougir, car je n'ai point péché, Gucho est mon époux !»
Dame Eliabelle n'accorda aucune foi au récit du mariage de minuit. L'eût-elle admis pour véridique que cela d'ailleurs n'eût rien changé? Marie avait agi contre la volonté familiale, contre l'autorité paternelle exercée, au nom du père mort, par la mère et le fils aîné. Une fille n'avait pas le droit de disposer de soi. Et puis, ce moine italien pouvait aussi bien être un faux moine. Non, décidément, Dame Eliabelle ne croyait pas à la mauvaise fable de ce prétendu mariage.
« À ma mort, vous entendez ma mère, à ma mort, je ne confesserai rien d'autre !» répétait Marie.
La tempête dura une grande heure. Enfin, Dame Eliabelle enferma sa fille à double tour.
« Au couvent ! C'est au couvent des filles repenties que tu vas aller !»
lui lança-t-elle à travers la porte. Et Marie s'écroula en sanglots parmi ses robes éparses. Dame Eliabelle dut attendre jusqu'au soir pour mettre ses fils au courant qu'ils fussent rentrés des champs. Le conseil de famille fut bref. La colère saisit les deux garçons, et Pierre, le cadet, se sentant presque fautif d'avoir jusque-là soutenu Gucho, se montra le plus exalté et le plus porté aux solutions de vengeance. On avait déshonoré leur sœur, on les avait abominablement trahis sous leur propre toit, un lombard, un usurier, ils allaient le clouer par le ventre à la porte de son comptoir. Ils s'armèrent de leurs épieux de chasse, ressanglèrent leurs chevaux et coururent à Naufle. Or, ce soir-là, Gucho, trop agité pour trouver le sommeil, marchait à travers son jardin. La nuit était constellée d'étoiles, imprégnée de parfums. Le printemps d'Île-de-France à son apogée chargeait l'air d'une fraîche saveur de sève et de rosée. Dans le silence de la campagne, Gucho entendait avec plaisir ses semelles crisser, un pas fort, un pas faible, sur les graviers, et sa poitrine n'était pas assez large pour contenir sa joie.
« Et dire qu'il y a 6 mois, pensait-il, je gisais sur ce mauvais lit d'Hôtel-Dieu, comme vivre est bon !»
Il rêvait. Alors que son destin était déjà joué, il rêvait à son bonheur futur.